Quelqu'un en très pas qui a écrit ça.
Non, mais je crois que c'est un truc bien combatif, genre. Je sais pas moi.
Mais je veux être une maçon pour le Seigneur.
Ça sonne bien quand même.
Ça sonne bien, mais. Ça veut dire quoi, bâton de ça?
Bah là, tu vois, peu importe ce que t'as autour de toi, t'es à fond, tu bats, y a aucun. Voilà, t'as un but, Dieu, bah tu te bats, quoi, t'as une bâton, tu te bats, non, c'est évident.
Ouais, mais je vois bien un mec se battre. Mais une fille, enfin, genre, non, mais raffinée, quand même, quoi.
Mais en même temps, c'est qu'un champ, je sais pas, t'as qu'à aller regarder dans le dictionnaire ce qu'il dit pour battante.
Ouais. Je vais aller voir.
Mais je veux être une bâton pour le Seigneur, je combattrai jusqu'à la fin du monde.
C'est ça, mais super bon.
Regarde, sur Google. Je
t'appelle. Des portes battantes. Oui. Bon, avec ça, on va pas peut-être aller très très loin.
Mais t'inquiète, ils m'ont donné autre chose aussi, mais je. C'était ça. Et c'était bien 10. Verset 10 à 20. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir face contre les menaces du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le Dieu Seigneur.
Merci, Marie. Alors, je ne sais pas si pour vous, comme pour nos chers amis, parfois être une battante, c'est peut-être pas très très clair ce que ça veut dire. Donc, justement, notre but ce soir, c'est de se baser sur ce passage d'Éphésiens 6, et puis de voir, simplement en découpant en trois parties le passage, ce qu'il peut vouloir dire pour nous, et peut-être de vous aider à y voir un petit peu plus clair sur ce que ça veut dire déjà d'être une battante, et puis comment le vivre au quotidien. Donc, je vais peut-être juste prier pour commencer. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes, d'abord simplement de nous retrouver, de pouvoir échanger ensemble. Merci pour ta parole qui est tellement puissante. Merci pour tous les trésors qu'on y trouve. Et on veut vraiment te demander d'être avec nous dans ces moments, pour nous aider, pour ouvrir nos intelligences, pour qu'on puisse réellement comprendre ce que tu dis à travers la parole. Et que ce soit toi qui inspire chacune des pensées de toutes celles qui vont participer ce soir. Amen.
Donc, première partie, le premier temps de ce soir. Donc, on va prendre les versets 10 à 12. Et donc, on a intitulé ça « Réaliser ». Donc, dans ce passage, donc dans ces trois versets, on peut soulever trois points. Donc, le premier point, c'est que Paul nous donne un enseignement. Donc, dès le premier verset, il parle de résister. Il parle également de lutte. Et il évoque même des armes que Dieu nous donne, donc ça nous met vraiment dans cette idée d'un combat. Et de la façon dont c'est présenté, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est qu'on peut pas échapper à ce combat. Et en tant que chrétien, on va forcément devoir lutter et se battre à un moment. Et le deuxième point, C'est un avertissement. Paul nous donne un avertissement, c'est-à-dire qu'il nous dit attention à ne pas se tromper d'ennemi. Et donc ça, c'est surtout dans le verset 11, où il nous dit nous ne devons pas lutter contre les hommes. Mais, et après, là, il fait une super longue énumération, mais en gros, tout ce qu'il dit après, ça se rattache au diable et au mal. Et du coup, il faut vraiment faire attention à pas, à ne pas se tromper d'ennemis et vraiment savoir contre qui on lutte et être prêt pour ça. Et le troisième point, c'est que Paul nous donne deux encouragements. Donc le premier, c'est qu'on connaît la fin du combat. Donc si quelqu'un veut bien prendre 2 Timothée 4, verset 9 à 8, s'il vous plaît,
et le lire.
Donc, on peut voir que la fin, en fait, la fin du combat, on sera récompensé. Donc, ce sera après notre mort et après le retour du Seigneur, quand on sera auprès du Père, on sera récompensé. Et donc là, il parle d'une couronne, mais ça pourra peut-être prendre d'autres formes. On ne sait pas trop encore, mais donc voilà. Et le deuxième point, le deuxième encouragement que Paul nous donne, c'est qu'on a les moyens de se battre. Dieu ne nous dit pas juste « battez-vous ». Et puis genre, en freestyle. Non, là, il nous donne vraiment des moyens. Et Paul nous parle d'armes et de forces qui nous sont données afin qu'on puisse vraiment tenir ferme. Et tenir ferme, en fait, pour faire dans cette bataille, pour ne pas se laisser écraser et ne pas se laisser abattre.
C'est justement quand on regarde, finalement, tenir ferme, c'est la grande mission qui nous est donnée. Et si on reprend le passage, il y a plein de fois où on nous parle de tenir ferme, de pouvoir tenir ferme, etc. Et puis on s'est dit, une des choses qui peut peut-être nous aider à mieux comprendre ce que ça peut vouloir dire, c'est de chercher des exemples bibliques de personnes qui ont tenu ferme ou qui au contraire n'ont pas tenu ferme. Donc, je ne sais pas si vous, il y a des personnages qui vous viennent, qui ont vraiment tenu ferme jusqu'au bout. Au contraire, c'est dans le bon, mais ce n'est pas ça, nous permet. Ouais. Et en fait, je trouve ça beau dans Daniel, c'est vraiment cette expression-là qui est donnée, qui est écrit précisément, je crois, et Daniel prit la ferme résolution de ne pas se souiller. Donc, c'était vraiment, il a décidé et il s'y est tenu. Elle a fini sa promesse complètement. Alors qu'il est vivant dans un monde complètement. Plusieurs façons qu'on peut avoir de tenir ferme. Parce qu'il y a tenir ferme en résistant à la tentation, comme Joseph, tenir ferme en étant complètement obéissant, comme Noé, tenir ferme dans les grandes épreuves, comme que quelqu'un qui finit de son vie. Et peut-être aussi parce que les contre-exemples, c'est peut-être un peu Mathieu qui inspire ça, mais parfois ça fait du bien aussi. Si vous avez aussi des idées de personnages qui n'ont pas tenir ferme.
Salut.
Judas.
David aussi, quand il a.
Avec la femme de Samson, j'ai pensé à Samson, je me suis dit, c'était vraiment. Il est non.
Et alors,
Moi, j'aime bien aussi me dire que dans la vie, il n'y a pas que des gens complètement parfaits. C'est ce que je disais, des gens dont on peut apprendre et d'autres dont on peut apprendre. C'est pour quelle chose. Pardon ? Oui, c'est pour quelle chose. La vie, je vous disais. Voilà, donc, notre mission, c'est qu'on ressortir de ce passage, c'est vraiment sur le thème. Mais en même temps, quand ça reste là, je me dis, d'accord, mais moi, je ne suis pas une dernière histoire de quelque part, mais vous voyez ça, c'est comment en pratique, ça me semble tellement éloigné de ce que moi, je suis arrivée à faire. Et donc, justement, maintenant, on va peut-être passer un temps à réfléchir à ça et voir que, comme on dit, justement, on a justement quand même cet encouragement. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissance.
On va passer au deuxième temps. Donc, comment faire pour se fortifier? C'est bien beau de nous dire fortifiez-vous et tout, mais bon, voilà, en pratique, on fait comment? Et du coup, on a la réponse. Donc, le deuxième temps, il faut s'équiper. Après avoir réalisé qu'il y a un combat, il faut s'équiper pour le combat. Donc, nous voyons qu'il y a 6 armes qui correspondent aux armes décrites dans les versets 13 à 17. Donc il y a la ceinture, le casque, les chaussures, l'épée, le bouclier et la cuirasse. Donc vous êtes 18. On va faire 3 groupes de 6. Vite fait, vous faites par proximité, je pense. Hein. Et puis, on va vous donner 2 armes chacune. Et vous allez devoir répondre à quelques questions. Ça va ? Mais je vous laisse vous mettre par groupe de 6, enfin, vous tournez juste un peu pour que ce soit plus pratique pour parler. Ouais, ça me dit pas. Alors, on va peut-être prendre les... On va peut-être prendre les armes dans l'ordre qu'elles sont dans l'ordre du texte. Bon, comme ça, on va peut-être faire un petit peu entre les groupes, on verra. Donc, la toute première, donc, tenez donc ferme, on a vu que c'est notre grande mission. Pour cette grande mission, on peut se reposer sur la force toute puissante de Dieu. Et justement, cette force toute puissante, elle se décline avec toutes ses armes. Donc, la première, la vérité en guise de ceinture. Je crois que c'était vous qui l'aviez, la vérité. Alors, est-ce que vous avez des grandes perles à nous partager?
Alors, la vérité en ceinture, donc, pour la ceinture, elle soutient les reins. Probablement qu'à une certaine époque, les reins étaient le siège des émotions, dans certaines cultures. Donc, il y a des idées de protéger les émotions, il y a l'idée d'être stable. Et cette idée de la vérité qui se tient quand on est bien tenu, ça fait penser à Jésus qui est le soutien, Jésus qui est la vérité. Alors, comment on peut utiliser l'épée On a quand même dit que certainement l'épée était attachée à la ceinture, donc ça faisait un tout, quoi. Il y a la ceinture, la vérité, il y a l'épée. Même si la ceinture est écrite, c'est vraiment protectrice, mais on ne peut pas la vérité. La vérité va le mystère à contrecarrer le mensonge, soit dans notre vie ou dans nos relations. Mais cette idée que la vérité nous donne la force, je trouve que c'est vraiment important. Merci. Voilà.
Je ne sais pas si on a d'autres qui ont des idées qui leur viennent juste comme ça à. Sur cette ceinture. C'est vrai que c'est pas vraiment. Ça fait partie de l'arbre. C'est un équipement, voilà. Donc c'est ce qui fait, c'est vraiment une arme, mais ça fait partie de l'équipement. Et c'est vrai, en fait, c'est pas une arme, c'est clairement pas quelque chose d'offensif, c'est pas non plus que ça protège, mais si on l'a pas, on est quand même bien embêté. Et on peut pas vraiment. Remplir notre mission si on l'a pas. Donc cette ceinture pour vérité. Alors je ne sais pas si vous rappelez mais l'année dernière qu'on avait regardé Proverbe 31, il y avait déjà une ceinture qui apparaissait. Et la femme dans Proverbe 31, ce qu'elle a pour ceinture, c'est la force. La force pour ceinture. Et en fait, c'est assez rigolo parce que je pense qu'il ne faut peut-être pas trop se prendre la tête sur pourquoi est-ce que c'est exactement cette arme et pas cette autre. Parce que quand on regarde dans la Bible, des fois, un élément de l'équipement est associé à une notion, puis parfois c'est un autre. Donc je pense que c'est tout un ensemble. Mais en tout cas, c'est sûr que la vérité, elle est indispensable. Et tout ce qu'on sait de Dieu, Dieu est la vérité. Et tout ce qu'on sait de lui, c'est vraiment ça qui nous permet d'être, comme tu l'as dit, d'être stable, de tenir ensemble. Parce que si on n'a pas la ceinture, tu sais, moi, je crois que si j'ai oublié de mettre ma ceinture le matin pour s'en compte, je ne suis pas très bien toute la journée. Je n'ai pas très bien dans la journée, j'entends. Et c'est ça, on a besoin de ça. Et il y a peut-être un peu aussi les deux côtés à la vérité. Il y a d'abord Dieu et la vérité, on a besoin de connaître cette vérité. Et puis il y a aussi l'autre côté, nous, être des gens de vérité et être connus comme des gens de vérité pour pouvoir. Justement, pour pouvoir tenir ferme dans le monde. Et quand on pense au diable, quelle est une de ses attaques préférées? Le mensonge, tous les mensonges qu'il peut nous dire. Et si nous, on repasse les vérités qu'on connaît de Dieu dans notre cœur, mais quel moyen de se battre contre ces attaques du diable à travers le mensonge?
Ok, super, merci. Alors, si on continue après la vérité pour ceinture, on a. C'est quoi du pied de la chasse que... La cuirasse de la justice, pardon. Donc la cuirasse, c'était encore vous. Hein. C'est ça, c'est pas fini. Donc. Ouais, donc tout le monde va se toucher la cuirasse.
Donc c'est le soutien du coup là.
Donc on a dit précisément que la cuirasse protège les organes vitaux. Et là, voilà. Elle nous aide à faire ça. La justice et la droiture, on pensait aussi un peu à la vérité, mais on a simplement dit, peut-être le fait que ce qui est droit, ce qui est juste, nous protège peut-être de mauvais choix, de erreurs. On a pensé à la justice et la droiture pour ce sens-là, faire le bien et comme ça, l'exprès.
Oui, justement, il y a. Là encore, je pense qu'il y a ces deux sens, la justice de Dieu et justice des hommes. Et justement, ce que j'ai pu lire, c'est que quand on parle de notre justice, là encore, c'est une arme un peu contre toutes les tentations, si on est réellement des personnes justes. Et si on a cette volonté d'être entièrement juste pour faire face aux tentations. Et c'est vrai que cette justice de Dieu aussi. Alors, il y a un verset dans Ésaïe. Qui dit que l'Éternel se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Donc finalement, exactement la même image, mais pas appliquée à lui, mais à l'Éternel. Et quand on pense aux écrits de Paul, quand lui parle de justice, finalement la justice, c'est souvent la justice, le fait qu'on est entièrement juste devant lui, par notre salut, on est entièrement juste devant lui. Et quelle protection, quel moyen de se tenir droit, de savoir que devant l'Éternel, on est des gens entièrement justes, justifiés. Et que, voilà, c'est le vêtement qu'il nous donne, qui nous fait voir complètement blanc, sans aucune tache, entièrement juste et justifié. Ok, je ne sais pas si il y en a d'autres qui aimeraient rajouter des choses sur la cuirasse de la justice. Sinon, on va passer donc aux chaussures à vos pieds, le zèle. Ayez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Chose à rajouter, non? C'est des chaussures qui viennent aussi, par exemple, quelque chose vraiment du quotidien qui revient de. Moi, j'ai trouvé ça assez.
assez étonnant quelque part que le zèle soit dans cette liste. Parce que toutes les armes, ici, c'est des choses que Dieu nous donne. D'accord ? Dieu les met devant nous, et nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est de les embrousser. Il faut juste qu'on les mette, qu'on les prenne, mais Dieu, c'est Dieu qui nous les donne, elles sont devant nous. Et le zèle, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient de moi, soit c'est quelqu'un de l'aimé, soit c'est quelqu'un qui ne l'est pas, j'ai l'impression que c'est de moi. Et non, finalement, Dieu me donne cette possibilité, alors que moi, c'est à moi de la prendre. Mais c'est lui qui me la donne. Vous trouvez que c'est une belle image. Et une autre chose que je trouve intéressante dans cette image en particulier, c'est des chaussures pour annoncer l'évangile de paix. Alors qu'on est dans ce passage combatif, les armes, combattre le bon combat, etc. Enfin, c'est cette idée-là qu'on retrouve. Et bien, il nous dit que c'est l'évangile de paix. Donc, ça voit ce que disait Mérine, ne pas se tromper d'ennemi. L'ennemi, c'est pas les gens qui nous entourent. L'ennemi, c'est le diable, c'est le malin. Et nous, au contraire, les gens qu'on a autour de nous, tout ce qu'on a à faire, c'est leur annoncer l'évangile de paix avec ses chaussures. Et ses chaussures, c'est ce qui nous permet toujours d'avancer dans notre vie chrétienne et de ne pas rester toujours au même point. Ouais, je viens de mettre mes traces, je pense qu'il faut ça. Ok. Et si on continue encore, après les chaussures, le bouclier de la foi.
C'est
nous protège. Mais ce que j'aime bien avec le bouclier aussi, c'est que c'est. Alors, c'est quelque chose complètement qui protège, mais quelque part, il y a besoin d'être un petit peu plus actif que. La cuirasse, elle est là. Elle est là, maintenant. Quand même, le bouclier, il faut le lever. Et puis, il y a ces images là, de toutes les flammes, les flèches enflammées qui arrivent. Et puis, c'est vraiment notre foi, ce en quoi on croit, qui va nous permettre d'éteindre toutes ces attaques du malin contre nous. Et notre foi, mais on croit en toutes les promesses de Dieu qui sont dans la Bible, et toutes ces promesses, en se les redisant, en se les repassant, c'est ça qui va aussi nous permettre de contrecarrer les attaques du malin à travers toutes ces petites attaques. Oui, de faire attention à tout ce qui. Je pense que c'est peut-être une histoire.
Ce que je trouve intéressant aussi dans l'époque des Romains et dans la manière de se défendre aussi, c'est tous ensemble. Enfin, moi j'ai un peu
Et je me dis peut-être que le bouclier, c'est une des armes pour lesquelles il faut le plus s'entraîner pour l'utiliser, et ça demande une certaine force. Je sais pas si vous vous rappelez l'épisode de David avec quand Saül lui propose son armure, il la met. Et le problème, alors parfois on a des images décollées dimanche qu'en fait elle est trop grande pour lui. Mais c'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est qu'il ne savait pas s'en servir. Et je pense que l'armure qu'on a ici, bah parfois ça peut aussi être notre problème. On l'a, elle est devant nous, on peut même essayer de la mettre, mais finalement si on ne s'entraîne pas, si on ne repasse pas bah, toutes ces promesses, toutes les vérités de Dieu, toutes les promesses qu'il nous donne dans sa Bible, bah, si on n'apprend pas à s'en servir, ça ne va pas être aussi évident que ça. Donc il y a aussi ce côté, comme je disais. Alors, il nous en reste deux, je crois. Le casque du salut. C'était vous ? Je vous ai interrompu avant la fin.
C'était le sens stratégique de penser tout ça. Et pourquoi le salut,
me dit le cap, pour le coup, c'est quelque chose qui est sur notre tête. On n'y peut rien. Et il va même nous protéger si quelque chose nous arrive par derrière et qu'on n'a rien vu venir. Enfin, on ne sait même pas, c'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus et il va nous protéger. Et moi, je trouve ça assez beau de me dire que le salut, mais j'ai mon salut, et voilà. Et c'est une protection qui est là. Alors, il faut que je prenne ce salut qui m'est offert. Et une fois qu'il est là, j'ai aucun souci à me faire. Alors, je ne sais pas si c'est de la grande question, c'est juste ma... Je ne dis pas que c'est là, peut-être, mais moi, c'est comme ça que ça m'a aidé, en fait, à me dire ça. Et, ouais, juste, se réjouir dans ce salut que l'on a, quoi qu'il nous arrive. Donc encore une protection, on se rend compte qu'on est vraiment protégé de toute part. Il y avait aussi une autre chose que j'ai pu lire, c'est que le casque, il n'avait pas seulement cette notion de protection, mais quand on pense au casque romain, il était souvent assez décoratif finalement. Mais le but, c'était aussi de reconnaître les gens et de savoir. Et je me dis, mais le salut, c'est un truc qu'on porte sur notre tête et ça devrait être quelque chose qui permet qu'on se reconnaisse aussi. Oui. L'appartenance, oui. C'est quelque chose qu'on porte entièrement sur notre tête, quoi. Oui. Alors, c'est juste pour finir, il nous reste donc l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà, l'été. Donc finalement, l'épée, c'est quelque chose qu'on dit nous-mêmes, on est parfois du mauvais côté, avec cette épée qui nous transperce aussi, et faut être prêt à ça, à la laisser transpercer par l'épée de la parole. Donc c'est aussi qu'on peut utiliser, moi je me dis, il y a tellement souvent, je sous-estime la puissance de la parole de Dieu, chez de non-chrétiens, et qui vont lire la Bible, qui vont lire un passage, je me dis, c'est la parole de Dieu, qu'est-ce qui peut être plus puissant que la parole de Dieu? Dieu juste encore s'en rappeler. Et bien sûr, là encore, il faut être quand même habile pour savoir s'en servir efficacement. Et on n'a jamais fini d'apprendre à se servir de la parole. Je sais pas si vous avez des questions là-dessus, parce que je pense qu'on a fait quand même le tour de pas mal de choses. Et je trouve que c'est des images qu'on peut se redonner. Et moi, une chose qui m'a aidée récemment, c'est simplement de me dire. Enfin, régulièrement, voilà, tu donnes toutes les armes qui sont devant toi, mais il faut simplement que tu les mettes et de réfléchir à l'une ou à l'autre. Et le matin, j'ai juste pas envie d'aller faire tout ce que j'ai à faire, et de me dire voilà, j'ai peut-être envie, mais j'ai toutes les armes qui sont à ma disposition, et aujourd'hui, je peux les embosser pour m'aider dans ma journée. La vérité, moi je connais la vérité, parce que Dieu nous l'a révélée, et je peux m'appuyer là-dessus.
je suis protégée par le casque du salut, etc. C'est tellement de bien. Alors, c'est juste peut-être un peu plus de Jusqu'à maintenant, on a vu un petit peu au début quel était ce combat auquel on était appelé. On a vu qu'on est appelé à combattre contre le mal. Notre mission principale dans ce combat, qu'on le veuille ou non, c'est de tenir ferme. On n'a pas le choix, on est au centre du combat, et ce qu'on a à faire, c'est tenir ferme. On a vu tout l'équipement qu'on a, avec toutes ces armes qui nous sont données, quand il nous suffit d'endosser, et ce serait dommage de s'arrêter là, et de ne pas aller vraiment concrètement au combat. Donc c'est notre dernière partie, participer, les versets 18 à 20. Donc je vais peut-être juste relire ces derniers versets. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Je pense que ça aura échappé à personne, c'est le thème principal de ces versets. C'est la prière. Alors, on peut se dire, mais c'est quoi le rapport avec ce qui précède? Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas arrêté au verset 17? Parce que là, on n'est plus du tout en train de parler de combat. Il n'y a plus du tout ce vocabulaire militaire qu'on pouvait avoir avant. Mais en fait, si on revient à l'original, ça fait tout partie de la même phrase. Donc, ce qui prouve bien que c'est un ensemble et qu'on ne peut pas séparer ça du reste. Et moi, ça m'a vraiment encouragé de réfléchir à la prière dans ce cadre, finalement, du combat. Alors la prière, bien sûr, c'est quelque chose de très très général. Il y a toutes sortes de prières, c'est juste finalement notre relation avec Dieu, notre façon de communiquer avec Dieu. Il y a nos prières de reconnaissance, nos prières de confession, toutes ces prières où on raconte simplement à Dieu notre journée et nos états d'âme. Mais ici, c'est vraiment un type particulier de prière auquel il est fait référence. Si on regarde ce pourquoi on est invité à prier ici, par Paul, c'est pour tous les saints, pour moi, donc pour Paul, ouais, pour moi, aussi. Et quels sont les sujets de prière pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile et que Paul en parle avec assurance. Donc quels sont les sujets dont on parle ici? Les autres chrétiens et puis l'évangélisation, l'annonce de la parole. Et donc on est vraiment dans le cadre d'une prière d'intercession pour les autres, pour les chrétiens. Et c'est de ça dont Paul nous parle ici. Et je me dis, oui, c'est complètement lié à ce combat dont on nous a parlé avant. Parce que quel peut être notre sujet de prière pour tous les chrétiens, complètement indépendamment de leurs circonstances? Alors bien sûr, on a les malades, alors on va prier pour les malades, ceux dont on connaît précisément les difficultés, on va prier pour eux. Mais je sais pas pour vous, mais parfois moi, j'ai des chrétiens pour qui prier, puis je connais pas particulièrement les difficultés qu'ils ont, ou ceux pour quoi je peux prier, alors je finis par dire, bénis un tel, bénis une telle, puis c'est quand même, ça va pas très très loin. Et ici, je me dis, dans le contexte de ce qu'on avait avant, quelle belle mission de prier pour que les autres tiennent ferme, qu'ils puissent aussi accomplir cette mission qui est la leur, comme la nôtre, de tenir ferme jusqu'au bout. Et je me dis, mais quand on fait ça, quand on est en train de prier pour les autres, c'est pas juste un à côté, on est vraiment complètement au cœur du combat. Et moi, ça m'a vraiment encouragée, et ça m'a peut-être motivée un petit peu plus à me dire, mais c'est, on peut être juste tout seul chez nous, il n'y a personne qui nous voit, mais c'est pas pour autant que ça a pas cette importance capitale, et c'est tout aussi important que tout ce qu'on peut faire de complètement visible, c'est efficace, ça a toute son importance, c'est même complètement indispensable, prier pour les autres, et prier en particulier pour l'annonce de l'Évangile. Et parfois, je me dis, mais moi en tout cas, je finis par prier pour tellement de choses, simplement par habitude. Et même quand on va aller faire on va aller distribuer des traités, avant on va prier. Et je me dis tellement souvent, c'est juste, Oui, ok, on sait, c'est presque une sorte de petite protection en plus. On va plier, c'est bien presque, j'ai envie de dire, superstitieux, alors c'est peut-être pas le mot, mais il y a un petit peu de ça. Et j'ai tellement, il y a tellement peu de fois où j'ai eu l'impression que c'était vraiment, que j'étais au cœur de la bataille, tout autant que quand j'étais en train de parler, par exemple, ou en train d'annoncer l'évangile à quelqu'un, au moment où je suis en train de prier pour les autres. Et ça, ça m'a vraiment, m'a simplement encouragée. Et puis on voit que Paul donne tellement d'importance à ça, il va pas, il s'arrête pas à mi-chemin, il se regarde, faites donc tout temps, tout pour nos prières, avec une entière persévérance pour tous les saints. Et je lisais dans un commentaire quelqu'un qui disait, ben nous, en tant que chrétiens, tellement souvent, on prie un peu de temps, quelques prières, avec un petit peu de persévérance, mais il en faut quand même pas trop, pour quelques chrétiens qu'on connaît bien. Mais c'est pas ça que l'outil attend de nous. Et voilà, ben c'est juste une tellement belle mission qui nous est donnée, une façon finalement qu'on peut tous trouver de participer à ce combat, alors de façon différente, à des moments différents, on peut tous participer par la prière. Mais j'aime aussi que Paul, il est quand même assez réaliste, il sait que c'est pas évident, il y a ce verset au milieu ici, les difficultés qu'on a, et il est veillé à cela avec une entière persévérance. Et je trouve que les deux choses qui dont il parle ici, la vigilance, veillée, et la persévérance, c'est peut-être deux des plus grandes difficultés qu'on rencontre dans la prière. Et enfin, je sais pas pour vous, mais moi, quand je prie, des fois, quand je commence à prier, je laisse tellement facilement me distraire par 20 000 choses. Rien, juste dans ma tête, je vais penser à la poubelle qui peut sortir et à je sais pas quoi d'autre. Mais on se laisse distraire. Ou alors, au contraire, on avait vraiment très vite prié pour des gens. Et on se rend compte que, ah, ben, vu qu'on a oublié, on s'est même pas rendu compte de ce qui s'est passé. Mais on se laisse tellement facilement distraire par tout ce qui nous entoure. Alors, on n'est pas les seuls à qui ça arrive, et si on regarde dans la Bible, tellement souvent, on nous parle de veiller, d'être vigilant, en particulier en lien avec la prière. On peut penser par exemple aux disciples, le soir où Jésus a été livré, pendant que Jésus priait, il leur a dit de veiller et prier, et qu'ils ont fait. Je pense qu'ils sont endormis, alors bon, c'est quelque part c'est un peu encourageant de se dire qu'on n'est pas les seuls à avoir ce problème. Mais en même temps, c'est pas pour autant que ça nous dispense de notre responsabilité. On a besoin de faire cet effort, d'être entièrement vigilant, et finalement d'avoir un seul objectif en tête, celui le meilleur, quoi. Si on garde Jésus, les yeux fixés sur Jésus, c'est, on va pas se laisser distraire par une chose ou une autre. Et puis la deuxième chose, la persévérance. Et là encore, moi, je m'y retrouve, parce que tellement souvent, je vais avoir trouvé une super méthode pour prier, mais alors, disons, ça va résoudre tous mes problèmes. Et puis ça marche trois jours, une semaine, et puis petit à petit, ça s'étiole, et puis on sait tout où on en est. Et ben voilà, Paul nous rappelle que oui, on a besoin de cette persévérance, d'aller jusqu'au bout. La prière, c'est pas juste un petit peu de temps en temps, c'est vraiment en tout temps. Et à ce sujet, il y a un exemple qui m'a vraiment frappée et qui m'a encouragée, c'est celui du prophète Samuel. Alors, on connaît toute l'histoire de Samuel quand il est petit, et que avec Élie, alors Dieu l'appelle, et puis Élie pense que c'est Élie, et à chaque fois il se lève. Donc, il est même petit garçon, il était plutôt quelqu'un de persévérant. Mais l'épisode auquel je pense, c'est beaucoup plus tard dans sa vie. Si vous vous rappelez, Samuel, il a dirigé le peuple israélite, et après il est arrivé un moment où il se trouvait vieux, et il a voulu passer la main à ses fils, et ses fils n'étaient pas des bonbons. Et c'est à ce moment-là que le peuple d'Israël a dit, nous on veut un roi. Vous vous rappelez ça? Et puis alors Samuel leur a dit, mais non, non, lui il voyait tous les problèmes qui allaient arriver avec un roi. Il dit, non, pas de roi. Mais Dieu lui a dit, finalement, si, il faut leur donner ce qu'ils veulent, il faut leur donner un roi. Et donc Saül a été moins un roi, puis il est devenu roi. Et ça n'empêche pas que Samuel, il va revenir encore à la charge pour leur dire, mais faites attention, s'il y a une chose qui est importante, c'est de rester attaché à l'Éternel. Et il va tellement leur dire qu'à un moment, ils commencent à prendre peur, ils commencent à se rendre compte qu'ils ont peut-être fait une décision. C'est trop tard. Ils vont dire, mais Samuel, continue quand même à prier pour nous. Oh là là, qu'est-ce qu'on a fait en prenant un roi? Et j'aime beaucoup la réponse qu'il fait à ce moment-là. Si on se met dans sa tête, il est là, il a... Enfin, c'est quand même terrible. On l'a mis complètement de côté. On lui a fait voir qu'il avait quand même raté l'éducation de ses enfants, finalement. Et puis... Et puis les gens ne veulent pas suivre ses conseils, alors que lui voit tout le mal qui va arriver. Je pense que moi, toujours de circonstance, j'aurais dit, mais c'est bon, enfin, vous aurez prévenu, mais moi je m'en vais. Et donc, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là, Samuel? Il dit, je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. Je me dis quel bel exemple de quelqu'un qui a réellement un battant pour Dieu. Lui, il a un seul objectif en tête. Son objectif, c'est pas de se battre pour ses propres droits, pour se battre contre ce que lui, on lui a fait à lui. C'est au contraire simplement de garder cet objectif, qui était le sien depuis le début, que le peuple israélite suive le Seigneur. Et moi, je me dis, bon, c'est un exemple à suivre. Alors, encore une fois, on se sent bien petit quand on voit ce genre de choses, mais quand même, ça peut juste nous encourager et voir ce qui peut être possible avec l'aide de Dieu aussi. Alors, comme c'est pas toujours facile quand même cette prière, on a prévu juste un deuxième petit temps de discussion.
Alors, il y a une seule question, mais en fait, il y a deux penchants à cette question. Donc, la question, c'est, avez-vous trouvé des moyens pratiques qui vous aident à être vigilante et persévérante dans la prière? Donc, vous vous remettez par petits groupes comme tout à l'heure, je pense, ce sera plus simple. Et donc, en fait, à cette question, il y a à la fois le côté pratique, c'est-à-dire, est-ce que vous avez trouvé des solutions pour justement être plus vigilant et éviter de partir sur la poubelle qu'il faut sortir ou des choses comme ça, genre vraiment bloquer un temps ou respecter une certaine liste ou quoi. Donc si vous avez des solutions et aussi face à ça, les difficultés que vous pouvez rencontrer quand vous priez ou quand vous essayez de prier si vous n'y arrivez pas. Donc on vous laisse 5 minutes et juste entre vous et... Bien, alors nous allons passer au dernier temps de ce soir, donc la conclusion. Alors, on peut, oui, si vous voulez. Vous voulez? Bon, bah alors on le fait, d'accord, il n'y a pas de souci. Peut-être un moyen par groupe pour pas que ça s'étale trop. Donc, le groupe, ou bien celui-là peut-être pour commencer. Un moyen? Donc, dégager un créneau horaire et prendre une liste, ok? D'accord. Deuxième groupe. Ok, d'accord. Donc, ouais, prier à haute voix.
Alors, ici,
D'accord, ok. Très bien, bah merci. Donc, on va passer à la conclusion maintenant, si c'est bon, ça va. Donc, on dirait pas, mais ce passage qui parle de combat, et ben dedans, on a réussi à quand même trouver de la féminité, parce que c'est vrai que bon, la guerre, ce thème-là, c'est pas très féminin, et pourtant, nous avons réussi à trouver la féminité. Donc, on a fait ce qu'on appelle un acrostiche, c'est-à-dire que le mot féminité va apparaître... à la verticale et à l'horizontale, il y aura des mots clés pour qui reprennent à peu près dans l'ordre dans le déroulé du texte. Donc le premier mot clé Aide, c'est pour fraternité, parce que Paul commence directement son adresse en disant frères et sœurs. Donc là, pour nous, on dirait plutôt sororité, puisqu'on est entre sœurs. Mais bon, fraternité, ça, c'est le terme général, et puis ça nous arrangeait plus de la fraternité que sororité. Donc voilà, donc le fraternité, c'est pour le verset 10 et 11 surtout. Le deuxième lettre, du coup, c'est, voilà, donc le E, c'est pour entité. Donc, les entités, c'est qu'il faut se souvenir contre quoi nous devons lutter. Donc, contre le diable, et comme c'est dit, contre les autorités, les puissances, et tout ce qui se rapporte au mal. Donc, il faut toujours qu'on ait en tête ça, qu'on a certaines entités, il ne faut pas se tromper contre quoi on doit se battre. Le troisième lettre, c'est un M. Donc, M pour multiplicité. C'est parce que l'expression « tenir ferme » réapparaît trois fois. Donc pour vraiment, comme l'a dit Suzanne, c'est vraiment notre mission. Et si Paul insiste à ce point sur le « tenir ferme », c'est qu'il y a une raison. Donc il faut se souvenir de vraiment cette mission de multiplicité. Donc là, on arrive au verset 14. La quatrième lettre pour le verset 14, c'est « I » pour « intégrité ». L'idée de la vérité et de la justice, donc ça c'est les deux premiers équipements, les deux premières armes qu'on peut voir. Puis le N pour nouveauté au verset 15 avec les chaussures pour le zèle et l'évangile de paix. Et donc nouveauté parce que les chaussures et le zèle pour l'évangile de paix, c'est quelque chose qu'on ne met qu'une fois après avoir accepté cet évangile de paix. Et donc c'est vraiment avec notre nouvelle vie, il y a ça qui arrive et en gros on le découvre et il faut l'apporter aux autres pour qu'eux aussi puissent le découvrir et vivre cette nouvelle expérience et ce renouveau. Donc voilà, ensuite, verset 16, un I pour immunité, parce qu'il y a l'idée du bouclier de la foi. Et le bouclier peut être vu comme quelque chose qui protège et voire même quelque chose qui peut repousser des fois. Donc c'est une sorte, en quelque sorte, la foi est une immunité contre les attaques. Puis au verset 17, ténacité, parce que la ténacité, l'idée de persévérance dans la lecture de la Bible. C'est vrai qu'on a la Bible, souvent on dit oh c'est génial, merci Seigneur pour ta parole, mais des fois se plonger dans la Bible, c'est un peu comme prier, c'est genre on a les yeux sur le texte, les yeux ils descendent le texte, mais l'esprit ou le cerveau il est pas du tout sur le texte en fait. On est là genre tiens j'ai ça pour demain, j'ai les poubelles à sortir, enfin c'est un peu comme la prière des fois. Donc vraiment être tenace et prendre vraiment des moments comme on prend des moments pour la prière, ça va prendre des moments vraiment pour lire et méditer la parole de Dieu. Et enfin pour les versets 18 à 20, l'idée d'efficacité, se dire que prier c'est bien beau, mais prier a forcément une, c'est efficace en fait, même si on s'en rend pas forcément compte, Dieu il répond tout le temps, et Dieu il répond de trois manières, soit il dit oui, vas-y, soit il dit non, donc il ferme la porte, ou soit des fois il ne répond pas ou il nous laisse attendre. Et donc il faut toujours se rappeler que même si les prières des fois on se dit ouais mais il m'a jamais répondu à ça, peut-être plus prendre du recul et dire mais si il a répondu mais comment il a répondu. Donc se souvenir que voilà, les prières sont efficaces. Et donc pour finir, on va finir le chant, puisqu'on a retrouvé les paroles entre temps, Ben a retrouvé les paroles, et donc on va vous interpréter le chant du début. Donc pour ce faire, on va peut-être chanter une fois le premier couplet, et après vous inviter à le faire avec nous, et puis il y a un deuxième couplet. Et donc voilà, si ça vous va, c'est bon ? Voilà, donc les paroles.
Allez. Je ne suis que du même.